Le journal, présenté par Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les 116 migrants bloqués depuis une semaine sur un bateau en Italie ont pu débarquer cet après-midi. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a finalement donné son feu vert après la conclusion d'un accord européen. 5 pays, dont la France, ont accepté d'accueillir les migrants. On sera en Italie avec Antonino Gallofaro. Pas d'entrevue pour Jean-Yves Le Drian avec le président brésilien. Jair Bolsonaro a annulé la rencontre à la dernière minute et de façon très peu diplomatique. Un rendez-vous manqué qui pourrait freiner la ratification de l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Et puis en France, la prime à la casse pour les vieilles voitures, revue par le gouvernement. Le dispositif est désormais dirigé vers les ménages les plus modestes. Une évolution, nous le verrons, dénoncée par les professionnels de l'automobile. C'est désormais le même scénario qui se répète à chaque fois qu'un bateau chargé de migrants arrive sur les côtes italiennes. Le gouvernement à Rome refuse de laisser débarquer les passagers et en appelle à l'Europe. C'est ce qui s'est passé avec le Gregoretti, un navire des gardes-côtes italiens. Plusieurs dizaines de migrants sont restés bloqués à bord du bateau pendant une semaine. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, n'a pas cédé. 7 jours d'attente et il a finalement donné son accord cet après-midi pour le débarquement après avoir obtenu des assurances sur l'accueil des migrants. 5 pays européens ont accepté de les recevoir, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal. À Rome, Antonino Gallofaro.
Problème résolu, se réjouit Matteo Salvini. Les migrants du navire Gregoretti peuvent descendre vu qu'ils ne seront pas accueillis par l'État italien. Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, brandit l'annonce comme une victoire. Il montre à ses militants qu'il n'a pas cédé aux autres pays européens qui ne veulent pas, selon lui, ouvrir leurs ports. Alors, les ports italiens restent fermés. Il l'a rappelé sur son média préféré, Facebook.
Ils sont tous doués pour faire les généreux avec les ports des autres. Aujourd'hui encore, le ministre allemand de l'Intérieur a invité l'Italie à ouvrir les ports aux ONG. Eh bien non, mon ami. Maintenant, tout ne peut pas être résolu en Italie. Et nous sommes le camp de réfugiés d'Europe. Non, on arrive en Italie si on en a le permis. Je ne sais pas si cela me coûtera un autre procès, des avocats, des polémiques, des articles de presse. Tant pis.
Depuis l'été dernier, le ministre a en effet fait l'objet de plusieurs enquêtes pour séquestration de personnes. Mais en février, le Parlement a voté contre la levée de son immunité, grâce notamment au vote du mouvement 5 étoiles. Son allié au gouvernement est pourtant très critique de sa politique migratoire.
En Israël, la politique de colonisation dans les territoires palestiniens est toujours une priorité pour le gouvernement Netanyahou. Le cabinet de sécurité a annoncé à la mi-journée la construction de 6000 logements supplémentaires de colons pour des colons en Cisjordanie. Dans le même temps, Tel Aviv a également donné son feu vert pour l'implantation de 700 logements pour des Palestiniens, cette fois dans un secteur de la Cisjordanie qui est occupé. C'est une décision assez rare qui va permettre à Benjamin Netanyahou de montrer sa volonté de paix, alors que Jared Kushner, l'architecte du futur plan de paix américain pour le Proche-Orient, est arrivé aujourd'hui en Israël. Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a encore de l'expérience à acquérir en matière de diplomatie. Il vient de le montrer cette semaine après l'entrevue complètement ratée qu'il devait avoir avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Les deux hommes étaient censés se rencontrer au Brésil pour évoquer notamment le traité commercial du Mercosur. La question de la protection de la forêt brésilienne devait notamment être à l'ordre du jour. Mais Jair Bolsonaro, qui est ouvertement favorable à la déforestation en Amazonie, a préféré annuler la rencontre avec une explication très peu diplomatique donnée par ses services. Le chef de l'État avait rendez-vous chez le coiffeur, un lapin largement commenté par la presse brésilienne. À Rio de Janeiro, explication de Sarah Cozzolino.
12 minutes de vidéo qui pourraient mettre en péril 20 ans de négociations. Le quotidien Folha de São Paulo relaie l'inquiétude de diplomates brésiliens. Ils craignent que l'attitude de Jair Bolsonaro fragilise l'accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne conclu en juin. Du côté du gouvernement brésilien, on explique que Jair Bolsonaro travaille de 4h du matin à minuit. Il faut bien qu'il trouve un moment pour se couper les cheveux entre les deux. Le journal O Globo attribue plutôt cette annulation à une vengeance de la part du président brésilien, contrarié que le ministre français et rencontrer des défenseurs de l'environnement, ses opposants, la veille. Côté français, le geste est perçu comme une énième marque de mépris. Quelques heures avant le rendez-vous, le chef d'État brésilien avait déjà averti qu'il ne se soumettrait pas aux pressions françaises, persuadé qu'il serait attaqué sur les questions environnementales. Le ministre français a terminé sa visite brésilienne par une rencontre avec João Doria, gouverneur de l'État de São Paulo, un État qui respecte l'accord de Paris, selon les mots de Jean-Yves Le Drian. Le gouverneur est ouvertement en désaccord avec le président brésilien, il serait un de ses concurrents à la prochaine élection en 2022.
Ce n'était pas arrivé depuis 2008 aux États-Unis. La Fed a baissé ce soir ses taux directeurs, une baisse de 0,25 points. L'objectif de la Banque centrale américaine est de faire face à la faiblesse de la croissance mondiale. La Fed n'exclut pas de nouvelles baisses dans les prochaines semaines. En France, on l'apprend ce soir, 3 hommes ont été mis en examen vendredi dernier pour un projet d'attentat déjoué. 3 individus, dont 2 qui étaient déjà en détention. C'est un homme de 27 ans, converti à l'islam et déjà condamné pour apologie du terrorisme, qui est accusé d'être le cerveau du groupe. Il n'avait pas de cible précise, mais avait évoqué la possibilité de s'en prendre à un surveillant pénitentiaire. Le dispositif de prime à la conversion va changer à partir de demain. Cette prime permet de bénéficier d'une aide de l'État pour les automobilistes désireux de remplacer leur vieille voiture pour un véhicule moins polluant. Mais donc à partir de demain, 1er août, la prime à la casse est revue à la baisse, des conditions d'accès plus restrictives et une aide financière diminuée. Au gouvernement, on explique qu'il s'agit d'aider désormais les ménages les plus modestes. Le Conseil national des professions de l'automobile lui évoque une prime à la casse désormais complètement anéantie. Explication de Margot Delpierre.
D'abord, le mode de calcul change. Le montant de l'aide est désormais fixé selon le revenu fiscal de référence par part, avec pour but de privilégier les ménages les plus modestes. Ensuite, les différents niveaux de primes sont revus à la baisse, à l'exception des véhicules les plus propres, et les modèles éligibles doivent afficher des émissions de CO2 inférieures à 116 grammes par kilomètre, au lieu de 122 avant. Autre nouveauté, il n'est plus possible de profiter de la prime pour acheter une voiture luxueuse de plus de 60 000 euros. La ministre Elisabeth Borne s'était justifiée sur ce point le 5 juillet dernier sur France Info.
Cette prime, elle n'est pas faite pour acheter des Tesla. On va regarder comment on peut éviter ce genre d'utilisation qui n'est pas dans l'esprit de la prime. Je pense que ce n'est pas utile de mettre de l'argent du contribuable pour aider quelqu'un à acheter un véhicule à 50 000 euros. Et puis, il faut s'assurer qu'on achète des véhicules qui sont vraiment propres. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'on atteint bien la cible, c'est-à-dire des véhicules vraiment plus propres.
Mais ce nouveau dispositif risque de décourager les ménages les plus modestes, selon Flavien. Il dirige l'observatoire CTLM.
Ça va dissuader un certain nombre d'automobilistes de changer de véhicule parce que, encore une fois, le dispositif était très incitatif, qu'il est plus complexe aussi parce qu'il n'est pas ouvert à tout le monde, il dépendra aussi du revenu fiscal. Et donc, du coup, c'est un dispositif qui sera moins facile à comprendre que le précédent. Et donc, on peut penser qu'effectivement, le nombre de voitures qui en bénéficieront sera beaucoup moins important à l'avenir.
Depuis le début de l'année, 250 000 demandes de primes ont déjà été déposées. Le gouvernement a pour objectif d'atteindre le million pendant le quinquennat.
Une bonne nouvelle pour le groupe Air France KLM qui mise notamment pour son avenir sur sa filiale Transavia. Et dans cette perspective, le groupe vient de décrocher une victoire aujourd'hui, un accord avec les pilotes et leur principal syndicat, le SNPL, pour le développement donc de Transavia. Raphaël Ebenstein.
L'issue du référendum ne faisait guère de doute, mais les pilotes d'Air France, consultés par le SNPL, ont approuvé à plus de 78% le projet d'accord avec la direction. Concrètement, il va favoriser l'essor de Transavia, puisque la filiale à bas coût ne sera plus limitée à une flotte de 40 appareils comme c'est le cas aujourd'hui. Transavia pourra donc faire voler plus d'avions, mais pas sur toutes les destinations. La compagnie restera réservée aux vols moyen-courrier au départ d'Orly de certains aéroports régionaux, essentiellement les liaisons touristiques en Europe. Les vols intérieurs seront toujours assurés par HOP, autre filiale. et Air France conservera l'exclusivité des longs courriers à Roissy. Le SNPL a par ailleurs obtenu une harmonisation des salaires et des évolutions de carrière pour les pilotes Air France détachés chez Transavia. Une sortie par le haut qui satisfait direction et syndicats, 6 ans après la plus longue grève au sein de la compagnie contre un précédent projet de développement de Transavia porté par le PDG d'alors, Alexandre de Juniac.
Les prévisions de Météo France pour la journée de demain, des nuages au nord mais sans pluie, du soleil au sud, température jusqu'à 30 degrés demain après-midi à Ajaccio. Il est 22h10 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal préparé avec Brice Garcia. Prochaines informations demain à 7h. We'll be right back.